Anaïs de Vincentville, géographie amusante. Un héros d'autrefois, à Verdun en 1695, sous le règne du grand roi Louis XIV, un petit garçon était né chez de pauvres ouvriers. Il s'appelait François Chevert. Aussitôt qu'il sut se tenir sur ses jambes, François prenait dans la maison tous les bâtons qu'il pouvait rencontrer pour se faire des fusils. Et cette manie lui valut le fouet bien souvent, car lorsqu'il manquait de bâtons, il prenait le rouet de sa mère, et Dieu sait dans quel état il mettait alors le chanvre ou la filasse qui couvrait le susdit. Quand François fut assez grand pour travailler, son père lui donna une bêche en lui disant d'une voix rude et d'un ton qui ne permettait pas la pelle. « Tiens, mon gars, creuse la terre avec ça. C'est une marâtre qu'il faut tourmenter pour qu'elle nous donne du pain. Plus tu lui t'arabusteras, donc plus t'en auras. » François prit la bêche et suivit son père au champ sans rien dire, car le bon Dieu nous ordonne l'obéissance et le respect pour nos parents, mais ses yeux étaient remplis de larmes et son cœur gonflé de chagrin. Il sentait en lui-même que ce n'était pas à bêcher la terre qu'il était destiné par le ciel. Un jour donc, que le pauvre François était tristement occupé à creuser son sillon, un racoleur vint à passer dans le village. « Qui veut être soldat de notre grand roi ? » criait-il. « On est bien payé, bien logé, bien nourri, et l'on coule agréablement le fleuve de la vie. » Et ramplamplam, ramplamplam, le tambour d'accompagner ces alléchantes paroles, éclaté par le plus doux sourire et regard conquérant, a réveillé le cœur le plus poltron. Mais hélas, le racoleur prêchait à des sourds, car personne n'est plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Et il commençait à craindre de devoir quitter honteusement le pays sans avoir pris la moindre proie, quand un grand et fort garçon, tout baigné de sueur, se précipita vers lui en s'écriant « Moi, je veux être soldat, emmenez-moi bien vite, je veux être soldat !» Le racoleur ne se le fit pas répéter deux fois, et quand le bonhomme Chevert, averti par des voisins, arriva pour réclamer son fils, il était trop tard. François appartenait au drapeau du roi de France. Il serait trop long de vous raconter comment le jeune soldat débuta dans la carrière militaire et surtout comment il parvint à conquérir tous ses grades à la pointe de son épée, car alors il était, sinon impossible, au moins d'une difficulté presque insurmontable, d'arriver de soldat à officier et d'officier simple aux grades élevés, puisque ces grades s'achetaient ou étaient réservés pour les grandes familles qui entouraient le trône. Pourtant, la persévérance et le courage aidant, notre jeune soldat sut vaincre tous les obstacles et il était lieutenant-colonel en 1741, lors du siège de Prague, par le comte Maurice de Saxe, un des plus grands généraux dont la France puisse s'enorgueillir, et sous les ordres duquel il servait. Et ce fut en partie à Chevert que l'on dut la prise de cette place, place que l'année suivante il défendit pendant 18 jours avec 1800 hommes seulement contre toute l'armée autrichienne. Superbe défense qui amena une capitulation fort honorable pour tous et une réputation des plus glorieuses pour le brave chef qu'il avait mérité. Le roi Louis XV voulut complimenter lui-même le brave Chevert sur sa conduite. « Mais je n'ai fait que mon devoir, sire, » répondit le héros avec modestie, « et mon plus grand désir est de mériter un jour les éloges dont votre majesté daigne m'honorer. » Et il tint parole, car, nommé lieutenant général, il contribua puissamment au gain de la bataille d'Artenbeck en 1757. « Dites-moi, madame, » ajouta la blonde Rivière, « en faisant de Rechef une respectueuse référence à sa souveraine, si seul le mérite de celui-ci a, de mes enfants, ne peut pas assez bien plaider ma cause. Pour que nos torts, si toutefois j'en ai pourtant, puisse être pardonné, car quel fleuve ou quelle rivière, ne sortant pas de chez vous, peut présenter mieux que moi à votre haute et puissante justice. Vous êtes un peu prétentieuse, ma mignonne, fit avec un sourire de dédain sur les lèvres une belle et noble jeune fille qui d'un pas de reine s'avançait en ce moment auprès du trône de la France. Elle s'y inclina profondément, après avoir jeté un coup d'œil de défi à sa rivale, comme accompagnement de ses paroles moins que courtoises. La nouvelle venue portait un costume tout à la fois de bergère et de reine. Elle tenait d'une main une houlette surmontée du symbole de notre divin maître, et de l'autre des clés d'or. Sa tête portait des tours et des remparts. Son manteau était brodé d'armoiries diverses, parmi lesquelles on remarquait surtout un beau vaisseau, toute voile dehors. Enfin, c'était un mélange charmant de simplicité et de grandeur, de puissance et de beauté. La Meuse devint toute tremblante devant une aussi redoutable rivale, et cachant son mépris et sa terreur sous le masque de la grâce. Soyez la bienvenue, ma sœur, dit-elle, et pardonnez-moi mes paroles, ont peut-être pu vous blesser ou vous déplaire. Elles n'ont fait ni l'une ni l'autre, laissa tomber de ses lèvres la dédaigneuse beauté. Mais je suis la saine, et je ne reconnais à personne le droit de parler avec orgueil des grands hommes qui sont nés sur ces bords, devant moi qui ai eu toutes les gloires. Refléter toutes les joies, arroser tous les triomphes et baptiser tous les rois qui ont gouverné la France depuis Clovis jusqu'à nos jours. C'est mon eau seule qui a lavé la tache originelle qui appartient à naissant ces joints du Seigneur. C'est sur mes bords aussi que se sont dénouées toutes les guerres, élever tous les trônes, renverser toutes les dynasties et changer toutes les lois. Vous êtes dangereuse, ma sœur, interrompit la Meuse en saluant sa belle rivale. Puis elle alla s'asseoir sur les marches du trône de la France, qui la conviait à prendre cette place du geste et du regard. Mais je suis bonne aussi pour ceux que j'aime, reprit la scène d'un ton plus courtois. Car si ma puissance est grande, ma position élevée, surtout aujourd'hui, je n'oublie pas que ma naissance est obscure, puisque je vois le jour dans un petit pays de la Côte d'Or, situé auprès de Saint-Seine. Aussi, après avoir arrosé Châlons, Bar-sur-Seine, Mairy, où je deviens navigable, Melun, Corbeil, Paris, où je deviens puissante, enfin une foule d'autres pays, je m'occupe de la classe ouvrière en alimentant des manufactures, l'un des plus beaux fleurons de notre couronne brillante, ô ma reine. Ainsi, à Elbeuf, on fabrique de ces beaux draps que veulent tous les hommes élégants du monde. Car vous savez que les draps sont la laine des moutons, laine préparée, filée, teinte et travaillée. J'alimente aussi à Rouen de grandes fabriques, mais non de laine cette fois-ci. Là, c'est le coton que l'on travaille pour en faire des étoffes qui prennent le nom du pays où elles sont confectionnées, puisqu'on les appelle de la rouennerie, et cette rouennerie est le fond du vêtement des ouvriers. Avec elle, il fait des blouses, des pantalons, des jupes pour sa ménagère, des habillements pour ses enfants. Et je peux être fier à plus d'un autre titre de service que je leur rends à cet égard, puisque c'est à moi encore qu'ils doivent la nature première de leur travail, le coton. Car le coton, qui pousse comme toute autre plante, n'est pas de notre pays. Le cotonnier lequel est tantôt une herbe, tantôt un arbre, plus souvent un tout petit arbrisseau, croît dans les pays chauds. Ainsi, il y a une grande quantité en Asie, en Afrique, en Amérique, dans l'Espagne méridionale et dans le royaume de Naples. Son fruit est une cosse ou gousse de la grosseur d'une noix. Les graines qu'il renferme sont enveloppées d'un duvet moelleux et blanc. C'est le coton. Et quand ce fruit, qui ne peut servir à aucune nourriture, ni à celle de l'homme, ni à celle de l'animal, vient à s'ouvrir de lui-même à l'époque de la maturité, le coton s'en échappe et l'on en fait la récolte. Ce coton, nettoyé et séché au soleil, se met alors en ballot et s'expédie pour tous les pays du monde. Et celui qui est destiné à la France arrive au Havre, pays le plus important de l'Empire pour le marché des cotons. Alors, une fois entré dans mon pays, c'est à moi la Seine qu'il est confié, d'abord pour le conduire à sa destination particulière, puisque je vais me réunir à la mer entre Honfleur et Le Havre, endroit où il a débarqué. Je vous disais donc bien, toutes ces manufactures me doivent leur travail et les ouvriers leur salaire et leurs habits. Les prairies sont belles aussi et les pâturages que j'engraisse sont recherchés par les fermiers. Sur les bords fleuris qu'arrose la Seine, cherchez qui vous mène, mes chères brebis. Voilà ce que disait déjà jadis et bien gentiment encore une belle dame poète, Madame Déoulière, qui vivait il y a 150 ans sous le grand roi Louis XIV. Et Dieu sait, toutes les chansons et tous les vers qui ont été faits sur moi depuis ce temps-là. Pourtant, je n'en suis pas plus fier. Dieu sait pourtant si j'en aurais sujet. Ma sœur, la Meuse, vous a parlé avec fanfare d'un héros né sur ses bords. Mais je vous en citerai mille si je voulais. Ainsi, en laissant de côté les temps anciens et se rappelant par le roi Louis Saint-Louis, nés sur mes bords, combien d'enfants de Paris ont porté glorieusement le drapeau de leur roi sur une terre étrangère. Par tout pays, parisien veut dire brave. Mais je laisserai aussi de côté la gloire pour vous parler de vertus plus modestes qui fleurissent sur mes bords.